Et faisons preuve d'un peu de panache cette année, tiens, comme le voulait Edmond Rostand qui, invité à parler dans son ancien collège après le succès de sa pièce, intimait un parterre d'élèves à devenir des Cyrano. Dans ce poème, sur le panache, il y a 120 ans précisément, il disait « Balayez cet ennui, ce sera votre tâche. Empanachez-vous donc, ne soyez pas émus, si la blague moderne avec son rire lâche vient vous dire que le panache, à cette heure, n'existe plus. Il est vrai qu'il va mal avec notre costume, que devant la laideur des chapeaux londoniens, le panache indigné s'est enfui dans la brume, en lamissant sa dernière plume au casoar des Saint-Cyriens. Il a fui, mais malgré les rires pleins de bave, qui de toute beauté furent les assassins, le panache est toujours, pour les yeux clairs et braves, aussi distinct au front des braves que l'auréole au front des saints. On peut faire sonner le talon des aïeux, même sur des trottoirs modernes et paisibles, et les éperons invisibles sont ceux-là qui teintent le mieux. Monsieur de Bergerac est mort, je le regrette. Ceux qui l'imiteraient seraient originaux. C'est la grâce, aujourd'hui, qu'à tous, je vous souhaite. Soyez de petits Cyrano.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui célèbre le panache de l'un de nos plus grands héros nationaux, un certain Cyrano. Après le triomphe sur les planches d'Edmond, sa pièce sur la naissance du chef-d'œuvre d'Edmond Rostand, il part à la conquête des salles obscures avec l'adaptation de cette pièce, pleine de verve, de rythme, de lyrisme, qui sortira la semaine prochaine. Bonjour Alexis Michalik.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup.
Merci
d'être
à vous.
Là. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le panache pour vous? À quoi ça tient?
Eh bien, le panache, c'est Cyrano, justement. Cyrano de Bergerac, notre héros favori. Qui était à l'époque où la pièce est sortie, c'était le héros préféré des Français. Qu'est-ce que c'est Cyrano? Et ben c'est quelqu'un qui refuse le compromis. Moi, je pense qu'il n'y a pas de succès sans compromis. Cyrano de Bergerac, lui, et ben il est brillant, il est drôle, il est poétique, il est romantique, il fait des vers, c'est quelqu'un qu'on ne peut qu'admirer. Mais en plus de ça, il refuse le succès.
Vous en avez, vous, du panache, Alexis Michalik?
Je ne sais pas si j'ai du panache, mais moi, j'aime bien le compromis.
Et où est-ce que vous le trouvez aujourd'hui, le panache, quand vous regardez autour de vous?
Ben, un peu partout. J'ai plein de gens autour de moi qui ont du panache. Mon père, il a du panache. Ma famille a du panache. C'est des gens assez têtus, assez fiers et en même temps assez merveilleux.
En France, peut-être, plus qu'ailleurs?
Bien sûr. Mais en France, on aime. En fait, on a quelque chose en France, particulièrement où on aime Cyrano. Parce que je pense qu'en France, on aime les gens qui résistent, ouais, plus que les gens qui réussissent.
C'est effectivement, je vous ai souvent entendu dire ça, une qualité prisée par les Français. Pourquoi est-ce qu'en France, on attache autant d'importance aux mots aussi, à votre avis?
Dans My Fair Lady, ils disent, il y a une chanson où il dit les Français, peu importe ce qu'ils disent, du moment qu'ils le disent bien. C'est un peu ça. Nous,
drôle parce qu'on sait tous les deux que c'est pas toujours le cas.
Non, mais on attache une importance particulière au verbe et je trouve ça beau parce que c'est ce qui nous unit, la langue. La langue, ça ne nous divise pas. La francophonie, c'est des millions et des milliers, des dizaines de millions, des centaines de millions de gens qui la parlent. Ça n'est pas que la métropole, c'est tous ceux qui la parlent. Et moi, j'ai eu la chance de voir mes pièces voyager à travers toute la francophonie, que ce soit au Maroc, en Algérie, à Tahiti, en Nouvelle-Calédonie, au Liban. Et c'est génial de voir des gens qui se retrouvent autour d'une pièce de théâtre et qui partagent les mêmes émotions qu'on peut trouver à Paris et qui communient. Pour moi, le théâtre, c'est une religion athée. Donc c'est une manière de faire communier des gens ensemble, sans religion.
Qu'est-ce qui fait de Cyrano de Bergerac, à votre avis, un héros typiquement français? Une sorte de héros national?
Encore une fois, on n'aime pas les gens qui ont la win. On n'aime pas les gens qui réussissent. On finit par les détester, les gens qui ont du succès. Et Cyrano, eh ben, il n'a pas ce succès-là. Il n'a pas ça. Lui, il refuse tout compromis. C'est-à-dire que quand il écrit des vers, hein, il écrit des pièces, mais quand on lui dit le cardinal est intéressé, il voudrait juste changer deux ou trois lignes, il dit hors de question qu'on y touche quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il préfère que personne ne voit sa pièce, mais qu'elle reste intacte. Et c'est la même chose en amour. Il préfère vivre un amour romantique, donc un amour sublimé, plutôt qu'un amour qui rentre dans la réalité du quotidien. C'est-à-dire un amour réel, hein, c'est-à-dire un vrai amour consommé, mais en revanche, dans lequel il y a du compromis. Parce que bah, dans le couple, il y a du compromis.
À qui le dites-vous, Alexis? C'est la naissance de ce héros littéraire et la création du chef-d'œuvre de Cyrano de Bergerac que vous avez entrepris de raconter dans Edmond, d'abord au théâtre il y a 3 ans, puis au cinéma à partir de la semaine prochaine. Comment est-ce qu'il est né votre intérêt pour ce qui a été quand même l'un des plus grands triomphes du théâtre français?
Je pense que c'est une pièce que beaucoup de gens adorent. C'est la pièce préférée de beaucoup de gens. Moi, j'aime profondément cette pièce. C'est un chef-d'œuvre. C'est drôle. C'est magnifique. C'est romantique. C'est romanesque. C'est merveilleux. Et puis j'ai découvert en relisant cette pièce un dossier pédagogique qui racontait les origines de Cyrano, de cette création théâtrale. Et j'ai appris deux choses. C'était il y a 15 ans à peu près. Et j'ai appris deux choses. J'ai appris d'abord que personne n'y croyait, que tout le monde était persuadé que ça allait faire un four parce que c'était en verre, en costume. Enfin, c'était déjà considéré comme ringard. On est en 1897 à Paris.
Ça, c'est séduisant pour un jeune metteur en scène.
Bah, c'est passionnant de se dire personne n'y croit. C'est la revanche des losers. D'ailleurs, Edmond Rostand se considérait comme un raté et il avait dédié son premier recueil de poésie, Les Musardises, à tous les ratés. Et puis, ça a été un triomphe sans précédent. Et la deuxième chose que j'ai apprise, c'est que Edmond Rostand, quand il a écrit Cyrano, il n'avait que 29 ans. Et je me suis toujours imaginé l'auteur de Cyrano comme un vieux baron. Et là, tout d'un coup, bah, je me disais, mais c'est un jeune homme avec ses problématiques de jeune, quoi. Qu'est-ce qui a pu se passer dans sa tête quand on passe de l'ombre à la lumière d'une telle manière aussi éclatante à 29 ans?
Une sorte d'identification, là.
Quand j'ai eu l'idée, c'était bien avant que je me mette à écrire des spectacles. Donc, il n'y avait pas encore cette identification. Il y avait juste, c'est une histoire merveilleuse.
Mais elle vous a rattrapé.
Elle m'a rattrapé, en fait, par la suite. C'est-à-dire que bien longtemps après, moi, j'ai commencé à écrire des spectacles à 29 ans aussi.
Vous mentionnez le mot chef-d'œuvre. Qu'est-ce qui fait un chef-d'œuvre pour vous? En général,
c'est probablement son atemporalité, le fait qu'il résiste au temps, en fait.
C'est le temps, en fait.
C'est possible. Ouais. Le temps, c'est ce qui grave le succès dans le marbre. Et celui d'Edmond, celui de Cyrano de Bergerac, ce qui a fait sa particularité, c'est qu'à sa naissance, ça n'était pas quelque chose de révolutionnaire. C'était quelque chose d'assez classique, somme toute. Mais en faisant quelque chose de classique, en l'ancrant au XVIIe siècle, puisque ça se passe au XVIIe siècle, l'histoire, il en a fait quelque chose d'atemporel. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on voit Cyrano, c'est impossible de le dater. On sait juste que c'est merveilleux et ça marche comme ça marchait il y a 100 ans.
Mais pourquoi est-ce qu'on s'attendait à un four? Il faut nous raconter quand même.
Et parce que c'est considéré comme être ringard qu'écrire des vers en 1897. Il faut se replacer dans l'époque. Ceux qui triomphent, c'est Georges Feydeau. Ceux qui triomphent, c'est Ibsen. C'est Tchekhov. C'est beaucoup plus naturaliste. C'est beaucoup plus moderne ce qu'ils font comme théâtre. Et là, on a un jeune homme qui écrit du romantisme. Donc comme Musset. Musset, c'est 1830. Qui écrit des vers comme Racine et Molière. Ça, c'est carrément deux siècles avant. Et il arrive avec cette pièce en costume, on se dit mais c'est complètement ringard. Et les pièces d'avant qu'il avait faites, il n'y avait pas de comédie et ça avait fait des flops parce que c'était aussi en verre mais c'était un peu en poulet. Et là, il amène un humour passionnant. Il amène un scénario formidable parce que cette histoire de Cyrano de Bergerac qui va souffler les vers à Christian pour obtenir Roxane, ce triangle amoureux, c'est hyper intelligent. C'est un scénario digne d'Hollywood. Et puis en plus de ça, il le met dans un contexte comme aujourd'hui on ferait un blockbuster donc d'époque avec des batailles, des coups de feu, etc. Lui, il le fait au théâtre. Et puis, il amène Cyrano, et on en parlait, Cyrano, c'est le héros auquel on ne peut qu'adhérer. Les femmes ne peuvent que l'aimer, les hommes ne peuvent que l'admirer. Pourquoi? Parce que non seulement il est sublime, mais en plus de ça, c'est un raté.
Et il doute, notre Edmond. Vous diriez que c'est en doutant qu'on avance? Alexis Michalik.
Oui, et c'est même en tombant. Vous savez, je vais vous faire une confidence, moi quand j'étais ado, j'étais prof de roller.
Bravo à vous.
Pour les profs de roller.
Non. Ah ouais, c'est gentil.
Et en fait, la première chose qu'on apprenait aux gens quand ils apprenaient à faire du roller, que ce soit des enfants ou des adultes, on leur disait, il faut d'abord apprendre à tomber. Et donc, on leur disait, vous allez vous jeter au sol, vous avez des protections, etc. Vous allez vous jeter au sol et vous allez apprendre à tomber. Parce que quand on apprend à tomber, forcément, après, on n'a plus peur.
Votre plus grosse gamelle jusqu'ici, ça a été quoi?
Oh là là, c'est une bonne question. J'en ai eu un paquet sur des rollers, mais à part ça, ma plus grosse gamelle...
Théâtrale.
Mais moi, j'ai vraiment un rapport à l'échec assez sain. Enfin, je l'accepte assez vite et puis je passe à la suite, quoi. J'ai toujours cette espèce de truc de bon, ça n'a pas marché, on va en faire un autre derrière.
D'ailleurs, le film en témoigne, comme vous le dites. En tout cas, ce qui est passionnant, c'est que l'hommage que vous rendez autant à Cyrano de Bergerac qu'à son auteur, quelque part, il dit que vous avez toujours eu dans l'idée de le faire au cinéma. La forme théâtrale par laquelle vous avez triomphé auprès du public et lors des Molières, en fait, c'était presque par défaut, si j'ai bien compris.
C'est vrai, c'était par défaut. C'est un film que j'ai toujours voulu faire. Je l'avais en tête depuis 15 ans et pour moi c'était du cinéma, c'était pas du théâtre. D'ailleurs je voudrais revenir deux secondes sur l'histoire de la gamelle parce qu'en fait je me rends compte que moi j'ai commencé en tant que comédien et en tant que comédien on est habitué à l'échec permanent parce qu'on passe des auditions tout le temps et quand on en a une sur 10, sur 20, sur 30, sur 50, on est déjà content. Donc on est habitué à l'échec. Voilà. Et ce film, j'en rêvais comme on rêve de faire, comme je sais pas, Luc Besson rêvait de faire Le Cinquième Élément quand il avait 15 ans, en se disant un jour peut-être... Mais il se trouve que forcément, ça a mis du temps. Et puis, il y a quelques années, j'en ai parlé à une boîte de production qui m'a dit « D'accord, écris le scénario et on va proposer le film à un vrai réalisateur. » Et on l'a proposé à deux ou trois réalisateurs qui ont décliné. Et moi, j'étais très heureux parce que je me disais « Génial, peut-être que je vais pouvoir le réaliser un jour. » Et puis, on a essayé de le financer et on n'y est pas parvenu. Et je leur ai dit « Écoutez, si je le faisais au théâtre ?» Ils m'ont dit « D'accord, carte blanche, essaye de le faire au théâtre. » Et c'est en le faisant au théâtre qu'il a trouvé son public, et ce succès énorme a permis la création du film.
À votre avis, que vous a permis ce détour par le théâtre?
Tout. Il m'a donné tellement de choses et je suis tellement heureux que finalement, le destin m'ait empêché de faire ce film pendant 10 ans, parce que en arrivant au théâtre, déjà, la rencontre avec le public a permis de légitimer ce scénario, en fait, parce que oui. J'avais qu'à leur dire, vous voyez, il rit, donc ça va marcher aussi au cinéma.
Mais qu'est-ce qu'on apprend sur les planches qu'on n'apprend pas ailleurs, Alexis Michalik?
Ce qu'on apprend sur les planches, c'est qu'on a un rapport direct au public, c'est qu'on peut continuer à faire évoluer l'œuvre. Le théâtre, c'est l'art de l'éphémère, en fait. Donc, quand il y a une blague qui marche pas, on peut essayer de la changer le lendemain. Quand il y a un effet qui est un peu long, on peut raccourcir le lendemain. C'est ça qui est merveilleux dans le théâtre.
Alors, votre pièce, comédie, tragédie, vous avez 2 minutes.
Tragédie.
Super. Comédie. Bien, le titre.
Hercule. Savinien. Cyrano. Cyrano de Bergerac.
Mon rôle?
Cyrano.
Très bien. Qui est-ce?
Un poète. Femme rhéteur, avec une laideur.
Laideur?
Enfin, laideur, non, mais disons, une... un grand... nez.
Un grand nez?
Mais oui. Un nez énorme. Une protubérance.
Qu'est-ce que c'est, le texte?
Un début de tirade, la pièce n'est pas écrite.
Pas écrite? Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire au guillet bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple. Tenez.
Par exemple, tenez... Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse.
Putasse.
Edmond, le premier long métrage d'Alexis Michalik en salle la semaine prochaine. Et ce qui frappe dans ce qu'on vient d'entendre, c'est évidemment le rythme de la langue. En quoi le cinéma comme au théâtre, tout n'est qu'une affaire de rythme?
C'est
pour
vrai.
Vous.
Même dans la vie, tout n'est qu'une affaire de rythme. Parce que je voue une profonde haine de l'ennui. J'essaie à tout prix de chasser l'ennui de mon existence et aussi de mes pièces et aussi de mon film.
Pourtant, on s'ennuie toujours, non?
On s'ennuie toujours et c'est vrai qu'au final, on l'accepte et c'est bien. Mais quand on va au théâtre, souvent, le théâtre, dans ses pires clichés, est associé à l'ennui. Et moi, j'ai vu des spectacles merveilleux en grandissant, en allant au théâtre. J'ai eu la chance d'être parisien. Mes parents m'emmenaient au théâtre. Ils m'emmenaient voir Mnouchkine, ils m'emmenaient voir Brooke, Simon McBurney. Et j'ai vu des pièces où je me disais, mais ça peut être mieux que le cinéma, en plus. C'est merveilleux. Et je voulais transmettre cet amour du théâtre. Et pour transmettre cet amour du théâtre, j'essaie d'avoir cette obsession du rythme pour conserver l'attention du spectateur.
Mais j'ai l'impression que ça vaut aussi pour le cinéma. Absolument. Pour votre conception du cinéma, ça vient d'où, ça?
Mais parce que pour tout le monde, le cinéma s'accélère. Moi, il y a tellement de contenu aujourd'hui, il y a tellement de moyens de raconter une histoire. On peut la voir sur son téléphone, sur Netflix, sur partout en fait. Et donc tout s'accélère et on est obligé de happer l'attention du spectateur et pour qu'on ne le lâche pas, pour qu'on garde son attention, on est obligé d'aller vite.
C'est passionnant. Ça veut dire que l'écriture théâtrale et cinématographique est en train de changer, d'évoluer, de muter. En fait.
Oui, bien sûr, complètement. Elle mute, elle est complètement influencée par la quantité de contenu qu'on a. Mais c'est pas grave, c'est une bonne chose parce que pour moi, plus il y a de contenu, mieux c'est en fait.
Alors, ce sont deux arts que vous ne cessez d'interroger, y compris dans Edmond, où ce dernier assiste à une projection du premier film des Frères Lumière. Alors, c'est une scène assez belle d'émerveillement, et celui qui est assis à côté de lui dit qu'avec le cinéma, dans 10 ans, il n'y aura plus de théâtre.
C'est vrai. Et cet homme, c'est Georges Méliès à côté de lui. Ouais. Et parce que Georges Méliès, il était à la première projection des Frères Lumière. Edmond Rostand, je pense pas, mais bon, je l'ai quand même amené. voilà, cette scène est vraie puisque je l'ai inventée. Et ce qui s'est passé, c'est que je voulais aussi rendre hommage déjà à cette époque, parce que c'est la naissance du cinéma. Et puis évidemment, c'est un hommage au cinéma. Parce que ce film, Edmond, je l'ai voulu comme un... C'est un terme un peu qui veut rien dire, mais comme un film de cinéma. Sans pour autant oublier ce rythme qu'il y a dans les séries télé, sans pour autant oublier cette attention qu'on doit happer, je voulais qu'il ait... en tout cas, mon idéal, c'était qu'il ait la classe d'un film de cinéma comme ceux que j'ai vus de West Side Story à Chantant sous la pluie.
C'est ce que j'allais vous répondre. Il se trouve que le théâtre est toujours là et que malgré le succès des séries, par exemple, le cinéma aussi est encore là.
Ouais, ouais, tout à fait. Mais il est, vous savez, je pense que le cinéma est plus en péril que le théâtre. Parce que le cinéma est confronté à beaucoup d'autres moyens de diffusion, alors que le théâtre, eh ben, quelle que soit l'évolution de tous les moyens de diffusion, ce sera toujours des acteurs, des spectateurs, et c'est tout. On a besoin de rien de plus. Le théâtre, c'est un art beaucoup plus ancien et vénérable que le cinéma. C'est un art qui est millénaire. Alors que le cinéma, il est tout jeune. Il a même pas 150 ans.
Alors là où c'est intéressant, c'est que le film effectivement témoigne aussi de la difficulté qui préside à la naissance d'une œuvre. Alors si c'est aussi difficile, comment expliquer qu'il existe encore des gens assez fous pour s'y risquer ?
Ah, je pense qu'on ne manque pas de fous, figurez-vous. Je pense que ça c'est quelque chose, on aura toujours des fous pour peupler cette nation.
Vous
ce
l'êtes
monde.
Vous
Forcément, puisque je crée, en tout cas j'ai un ego suffisamment énorme pour pouvoir me dire je vais écrire quelque chose et ça va intéresser des gens. Déjà, à partir du moment où on se dit ça, c'est qu'on est un peu dérangé. Et d'ailleurs, Edmond le dit à un moment, quand son ami Léo lui dit « mais t'es complètement dérangé », il dit « mais bien sûr, je suis auteur ».
En fait, j'ai l'impression que ce dont vous nous parlez, au fond, c'est de désir, Alexis Michalik. Quand est-ce qu'il est né pour vous, ce désir de mettre en scène, aussi bien sur les planches que sur un écran de cinéma ?
Il est né assez tôt. Moi, j'ai commencé en tant que comédien. Et le premier spectacle que j'ai eu la chance de jouer, c'était Roméo, dans Roméo et Juliette, mise en scène par Irina Brooke. Et Irina Brooke, elle a une vision de la mise en scène qui est très... très collégiale, très commune. Elle prend des gens qui n'ont rien à voir, elle les met ensemble, elle les fait jouer à la balle et elle crée une troupe. Oui. Et moi, je me suis dit, ah ouais, c'est ça, faire de la mise en scène. Et ensuite, elle prend une scène de Shakespeare et puis elle dit, bon, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Je me dis, ah ouais, on peut faire tout ça. Et donc, elle m'a complètement bouleversé. Elle a mis une graine de metteur en scène en moi. Et puis, ensuite, je m'y suis essayé, d'abord avec des classiques. Et puis, un jour, j'ai raconté ma propre histoire avec le porteur d'histoire, justement. Et je me suis rendu compte que ça intéressait des gens. Je me suis dit, mince. Et en fait, il y a eu un espèce de truc où j'ai toujours aimé être chef d'équipe, j'ai toujours aimé emmener des gens dans une aventure, et tout d'un coup, alors que en tant qu'acteur on m'avait jamais dit j'ai été bouleversé par ton interprétation dans ce téléfilm à TF1 jeudi soir, tout d'un coup on me disait des choses de cet ordre là pour concernant quelque chose que j'avais créé, que j'avais écrit, et je me suis dit en fait c'est là ma place, il faut que je continue à raconter des histoires puisque ça intéresse des gens.
Tout ça grâce à la graine du désir plantée par Irina Brooke. J'ai relevé cette phrase qui me semble essentiel dans votre film, seul compte le désir, et lorsque le désir est assouvi, les hommes cessent leurs exploits.
Ouais.
Comment est-ce que vous l'entendez ?
C'est joli, ouais. C'est vraiment ça. Hein. Je pense que chacun a besoin d'un moteur dans la vie, concrètement, et les créateurs plus que tous les autres, puisqu'ils font quelque chose qui n'est issu que de leur propre envie, puisque personne ne les oblige à créer, c'est eux-mêmes qui disent « j'ai envie de sortir ce truc, j'ai envie de l'amener au monde ». Donc comment ils font ? Il faut bien qu'ils aient un moteur, il faut bien qu'ils aient un désir. Alors parfois le désir, ça peut être un désir de gloire, un désir de richesse, un désir de quelque chose, un désir d'amour aussi, un désir de reconnaissance. Mais en tout cas, c'est forcément un désir qui est le début, qui est l'étincelle.
On va reparler de désir, de théâtre, de scène après. Allez, la plus grande chanson de Queen, à mon avis. Moi, je tremble à chaque fois que j'en entends les paroles. The show must go on. C'était en 1991 sur l'album Innuendo. Vous êtes sur France Inter avec Alexis Michalik. Vous écoutez Boomerang. C'est cool. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. In the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking,
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Il a cet enthousiasme fédérateur qui vous donne immédiatement envie de lui dire oui. Oui à la vie, oui au théâtre, oui aux longues tirades, oui aux gifles, oui aux cascades. L'œil malin, pétillant, volontiers farceur, le sourire communicatif séduisant, un bras racoleur, le cheveu rebelle et dompté en même temps. On est quelque part entre Don Juan et le chef scout qui vous montrait, vous savez, ce que vous étiez capable de construire. Une cabane, par exemple, avec son t-shirt collant V, bleu sous sa canadienne. Ce matin, le metteur en scène, cinéaste et comédien, Alexis Michel, invité de Boomerang, pour Edmond, votre premier long-métrage, Alexis, dans lequel vous jouez également le rôle de l'homme de théâtre Georges Feydeau, on en parlait tout à l'heure, dont les pièces font fureur effectivement à la fin du 19e siècle. L'aventure du cinéma et du théâtre, elle commence effectivement d'abord comme acteur pour vous, Alexis. Quand est-ce que vous avez su que ce serait votre métier?
Très tôt, vraiment très tôt. J'ai un spectacle en maternelle où je faisais le clown. Je me suis dit, ah, c'est marrant. Et puis ensuite, plus tard, club théâtre du collège. Et puis je suis monté sur les planches. Je me dis, mais c'est génial ce métier. On joue, on est sur scène, on s'amuse. En fait, on joue, quoi. Peter Brook, à la fin de L'Espace Libre, il dit, voilà, bah, jouer est un jeu. C'est aussi simple que ça. Donc moi, quand je joue, je suis content. C'est comme quand on est gamin et qu'on joue avec ses potes. Bah, c'est pareil. Moi, je suis content. Et donc, très tôt, je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire. Dès que j'ai passé mon bac, voilà, je trouvais un agent, j'ai commencé à faire des tournages et puis j'ai jamais arrêté depuis.
Ça a l'air simple, hein, comme ça.
C'est pas simple, mais ça aurait pu être plus compliqué. Je vais pas nier que, évidemment, comme tout, plus on travaille et plus on a de chance que ça puisse arriver un jour. Moi, je me satisfais beaucoup de ce que j'ai et j'essaie de faire de mon mieux pour obtenir ce que je n'ai pas.
Quel métier est-ce que c'est pour vous, le métier de comédien aujourd'hui, maintenant que vous en dirigez des comédiens?
C'est vrai. Moi, c'est un métier merveilleux parce que on est l'instrument. C'est un métier où la pire des angoisses, c'est de ne plus être désiré. La pire des angoisses, c'est de ne plus jouer, c'est de ne plus pouvoir faire son métier. Mais quand on le fait, c'est le plus beau métier du monde.
L'un de vos personnages, joué par Mathilde Seigner, je crois, en donne une très belle définition. Elle dit que les acteurs sont les artisans de l'éphémère. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire?
D'autant plus les acteurs de théâtre, bien sûr. Bah parce que ils jouent et puis ça y est, ils ont joué. C'est Jouvet qui disait au théâtre, on joue, au cinéma, on a joué. Ah. Mathilde Seigner, qui était formidable et qui joue Maria Legault, une comédienne un peu insupportable, et à la fin elle a cette scène, effectivement elle vient redonner confiance à Coquelin, parce que c'est vrai, parce que les auteurs, on s'en rappelle, les acteurs, bon aujourd'hui maintenant avec le cinéma on peut se rappeler, mais au théâtre à l'époque, tous les grands acteurs du 19e siècle, on les a oubliés, à part Sarah Bernhardt, on ne sait pas comment ils jouaient, mais pourtant c'était les stars de l'époque. En revanche aujourd'hui, bah, on sait qui est Georges Feydeau, on sait qui est Edmond Rostand, on sait qui est Tchekhov, parce que bah, leurs écrits nous restent.
Mais au cinéma, les images restent, alors les comédiens sont les artisans de quoi ?
Ah bah c'est autre chose maintenant, mais bon, c'est là effectivement, elle parle d'une époque où le cinéma n'est pas encore là. Le cinéma c'est autre chose, on est gravé sur la pellicule, on peut revenir, on peut nous voir, mais c'est dur pour les acteurs, parce qu'à partir du moment où ils ont fait un film, eh ben ils savent qu'ils seront toujours plus âgés que le personnage qui joue dans ce film.
Mais si je vous parle de comédien, c'est aussi parce que quelque part ce film et vos pièces précédentes sont comme une déclaration d'amour aux gens de théâtre, particulièrement, vous le disiez tout à l'heure, lorsqu'ils forment une troupe.
Bien sûr.
Mais pourquoi la troupe est-elle si importante pour vous? C'est le comédien qui parle.
Non, je pense que c'est une vision du monde, parce que dans mes spectacles, en fait, j'ai une vision assez utopiste, très égalitaire. Enfin, il n'y a pas un seul spectacle où il y a un comédien qui joue un petit rôle pendant qu'il y a un autre comédien qui joue un grand rôle. Ils ont tous des rôles qui ne sont pas similaires, mais qui sont équivalents en importance. Et ils sont tous au service d'une histoire. C'est des spectacles qui sont communautaires. Chacun des comédiens, en fait, ils portent cette histoire avec la même importance, la même même valeur que son camarade. Et voilà, je pense que ça vient du fait, évidemment, de l'époque où moi j'étais comédien, où je me disais, oh là là, c'est triste, il n'y a rien de plus terrible que de jouer dans un spectacle et d'avoir un tout petit rôle et de sortir et d'attendre pendant une heure qu'on revienne faire sa scène. Moi, si j'étais sur un spectacle, je voudrais être tout le temps en scène. Et effectivement, un comédien n'est jamais aussi heureux que quand il est tout le temps en scène.
Mais ce monde égalitaire, Alexis ouais. Michalik, c'est une utopie, en
fait. Oui, c'est une utopie, mais c'est pas grave, parce que on a le droit d'être utopiste quand on est artiste. On a le droit d'être utopiste quand on raconte des histoires. Parce que justement, on ne raconte pas des histoires réalistes, on ne fait pas de politique. Enfin, moi, je fais pas de politique, même si rêver, c'est déjà, faire rêver, c'est déjà de la politique. Mais j'ai le droit, justement, de montrer la voie. Quand on est raconteur d'histoires, on n'est pas dans une responsabilité civique, on est au contraire, on montre la voie idéale.
Une utopie égalitaire, une utopie d'histoire, une utopie sans star.
Oui, absolument, mais en tout cas au théâtre, au cinéma, j'ai quand même des acteurs qui sont un petit peu connus. Dans Edmond, Olivier Gourmet, Mathilde Seigné, il y en a quelques-uns, Dominique Pinon, Clémentine Célarier. Mais avant tout, la star, c'est l'histoire. Avant tout, la star, c'est le spectacle. Avant tout, la star, c'est le film. Mm. C'est surtout ça, mon idée. Je rêve d'un endroit où on va voir les films, on va voir les pièces pour elles et non pas pour quelqu'un.
Et c'est intéressant parce que l'histoire que vous racontez, c'est bien celle d'une troupe qui va en l'espace de quelques semaines monter un spectacle qui fera date dans l'histoire du théâtre. Cet esprit collectif, vous diriez qu'il manque aujourd'hui ?
Pas forcément, regardez, on a gagné la Coupe du Monde. Non mais c'est vrai, c'est la Coupe du Monde, c'est
oui, effectivement, c'est la force du collectif. Prenez cet exemple, on aurait pu en prendre d'autres.
Mais ouais, mais c'est la force du collectif quand même. Enfin, je veux dire, c'est la preuve que lorsque le collectif est là, et ben en fait, on arrive à nos fins. Le collectif sera toujours gagnant par rapport à l'individualisme. Je le pense absolument, sincèrement. Enfin, moi, j'ai des idées de gauche, tout simplement. Hein.
Mais est-ce que c'est aussi le but, la visée de ce film et de cette pièce auparavant, de réactiver la notion d'esprit collectif?
Vous me prêtez là une attention bien plus grande que mon humble, ma modeste,
c'est mon genre.
Mienne. Ma modeste intention, c'est tout simplement de raconter une histoire et de faire rêver et de raconter cette pièce à laquelle personne ne croit. C'est évidemment un rêve, c'est une ode aux rêveurs et de leur dire, bah, accrochez-vous à vos rêves parce que qui sait, ils peuvent se réaliser un jour.
Mais c'est peut-être le rôle aussi du metteur en scène et du cinéaste.
Le rôle de metteur en scène, c'est d'inspirer. Et effectivement, moi, bah Edmond, il m'a inspiré. Son histoire, elle m'a inspiré. L'histoire d'Edmond Rostand qui crée Cyrano, c'est extrêmement inspirant. C'est la revanche des ratés. C'est la revanche des gentils. C'est ceux qui rêvent. C'est les poètes qui, tout d'un coup, se retrouvent dans la lumière. C'est même paradoxal de voir qu'Edmond Rostand, il a vécu ça, alors que son héros, Cyrano, il est toujours resté dans l'ombre.
Mais je trouve, Alexis Michalik, peut-être que je me trompe, que votre théâtre, comme le film d'ailleurs, aborde très rarement des sujets politiques.
Ouais,
pourtant, c'est un texte...
Bah, mon dernier spectacle, Intramuros, ça se passe quand même en prison. Donc on est quand même dans un contexte un peu plus proche de la réalité, on va dire, politique. Mais je pense que... En fait, j'ai du mal parce que je trouve que j'enfonce des portes ouvertes. Parce que j'ai un regard justement assez utopiste et assez idéal. Et j'aime les débats d'idées plus que une analyse de petites phrases ou un rebondissement sur l'actualité. Je suis un passionné d'histoire et quand on est passionné d'histoire, on relativise énormément ce qui se passe aujourd'hui et dans la vie de tous les jours. Et le cycle d'information aujourd'hui est de plus en plus rapide. Donc il faut absolument rebondir sur tout. Plutôt que de prendre du recul,
et
d'analyser de manière plus globale ce dont on est en train de parler. Parce qu'au fond, on fait beaucoup de bruit pour éviter de parler d'un vrai problème ou d'une vraie question de société. Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est un texte pour le moins engagé, pour autant, que vous avez choisi de nous lire ce matin. Il s'agit d'un extrait de La loi de la mer, de l'auteur italien Davide Enya. Pourquoi ce texte ?
Parce que, j'ai trouvé ce bouquin magnifique, c'est très profond, ça parle de Lampedusa, cette petite île italienne qui est la plus au sud de l'Europe et sur laquelle s'échouent les bateaux de réfugiés. Donc David Enya est allé sur cette île pour rencontrer à la fois ces réfugiés et ceux qui les accueillent. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires merveilleuses et terribles dans ce livre et je voulais vous en lire une partie. Les bénévoles leur offraient des barres chocolatées et du thé chaud. À chacune, il disait « Welcome ». Les filles remerciaient à mi-voix « Merci » ou « Thank you ». Une petite inclinaison de la tête, une ébauche de sourire. Elles serraient le gobelet de thé à pleine main, tout près de leur visage, pour se réchauffer. On distribua d'autres couvertures de survie. Paola circulait pour ramasser les emballages et les gobelets vides. Elle leur parlait « Where do you come from ?»« D'où venez-vous ? » ?»« Welcome, bienvenue ». Et elle leur souriait, comme Alberto, comme les autres bénévoles. J'étais surpris, Paola s'en aperçut. Après ce qu'elles ont vécu, le minimum, c'est de les accueillir par un sourire, non ? Amoni, va me chercher un thermos et verse du thé. Quand toutes les filles eurent été transférées, le débarquement des hommes commença. Les premiers descendus baisèrent le sol et entonnèrent un chant de remerciement, les bras levés, le front au ciel. D'autres chantaient à mi-voix. Quelques-uns esquissaient un rythme en frappant doucement dans leurs mains. Ils étaient environ 300, épuisés. Silencieux et perdus, tous s'assirent contre le muret pour s'abriter du soleil. Les bénévoles distribuaient du thé, des barres chocolatées, des jus de fruits, et moi je disais « welcome » à tous ces jeunes qui débarquaient. J'essayais de parler avec eux. « Where do you come from ?» Niger, Cameroun, Syrie, Érythrée, Soudan, Somalie, Maroc, Tunisie, Népal, le monde entier. Attends, comment ça, Népal ? Ils étaient trois. Le seul visa qu'ils avaient pu obtenir, malgré la guerre, était un visa pour la Libye. Partis du Népal en bateau, ils étaient arrivés en Inde, où ils avaient pris un avion pour Tripoli. De là, après quelques semaines de prison, après avoir réglé aux passeurs la somme exigée, ils étaient montés à bord d'un grand canot pneumatique pour l'Europe. Une traversée de la Méditerranée coûte en général plus de 2000 dollars par personne. Le trafic des êtres humains est puissant et fructueux. « It's nice here », constata le Népalais. Il avait 20-25 ans, comme ses deux camarades. « Where are we now ? » demanda-t-il. J'expliquais que nous étions à Lampedusa, l'endroit le plus au sud de l'Europe. « We are in Sicily right now. We are in Italy. » Le jeune homme eut une petite inclinaison de tête pour me remercier, puis il redemanda « Are we in Europe ?»« Yes, we are. Welcome and good luck. »
La loi de la mer de David Enya dans une traduction de Françoise Brun. Vous pouvez retrouver ce texte aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup Alexis Michalik d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle qu'Edmond avec Thomas Oliveres, Olivier Gourmet, Mathilde Seignier, Clémentine Sellarié, Tom Leb, Lucie Boujna, Igor Gottesman, entre autres, sort la semaine prochaine. Que c'est un événement. Tout de suite, les médias, l'instant M, juste après ça.
M'amuse, m'aimante, m'amuse et me hante. Elle est toujours elle-même, c'est bien pour ça que je l'aime.
Super chérie, super chérie, super chérie.
Tellement addict que je suis accro. Accroché à ses ailes.
Super chérie, super chérie, super chérie, super chérie, super chérie.